BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et au programme aujourd'hui, lunettes connectées, intelligence artificielle, nouveaux usages. Le secteur de l'optique est en pleine transformation. Les opticiens deviennent de véritables acteurs de la tech et se lancent sur les lunettes connectées. Jusqu'où peut aller cette révolution? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Amaury Dutreil, il est directeur général de Crise Group. Et puis, nous irons dans un second temps à la rencontre d'une start-up française qui bouscule les codes de l'optique. Ça s'appelle Aisoft, des solutions qui mêlent réalité virtuelle et analyse du regard. Et je recevrai son fondateur, Thomas Didier. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Amaury Dutreil. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le directeur général de Crise Group. Ici aussi sur ce plateau, Claire Coraleschi, notre experte retail sur cette émission. Vous êtes directrice générale de Média Performance. Alors qu'on parle de plus en plus de lunettes connectées avec un marché qui pourrait peser 200 milliards de dollars en 2040. Le modèle de Meta est le plus connu à ce jour. Il y a Google qui va se lancer très bientôt sur le sujet. Et puis les opticiens aussi, après Afflelou. C'est au tour de Chris d'en faire un axe d'innovation prioritaire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur ce créneau?
Parce que c'est un créneau d'avenir pour l'optique, parce que c'est un nouveau relais de croissance pour nous, ça préfigure un peu de ce que pourrait devenir l'optique dans quelques années.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire combien est-ce que vous vendez de lunettes connectées, donc les modèles Meta, à savoir Ray-Ban et Oakley, en magasin?
Oui, on doit être pas loin maintenant des 10 000 unités vendues depuis le début, donc depuis une quinzaine de mois. Et la montée en puissance est assez forte, donc ça s'accélère.
Vous le ressentez ça en magasin?
Ouais.
On vous en demande de plus en plus?
Bien sûr, on a de plus en plus de magasins qui sont dépositaires. Et puis en effet, il y a une demande qui s'organise de plus en plus. Ça réclame un peu d'adaptation de la part de nos équipes, parce que c'est pas exactement la même vente. Ça demande un accompagnement de la part des opticiens un peu spécifique, mais on s'y fait très bien. On mesure d'ailleurs la satisfaction des gens qui achètent des lunettes connectées chez nous. On a une mesure qui s'appelle le NPS. Le niveau de satisfaction est extrêmement haut sur la vente des lunettes connectées.
Vous avez, on voit effectivement à l'image défiler des photos de ce modèle un peu particulier que vous avez mis au point. Au look plutôt sportif, c'est réservé aux sorties outdoor, puisque, allez-y, vous pouvez les mettre,
oui,
à Maurice.
Je les ai amenés avec moi, je peux les mettre effectivement si vous voulez. Alors, non, vous pouvez les mettre quand vous voulez, hein, si vous voulez. Mais c'est vrai que le style est plutôt adapté à l'extérieur, aux balades, à la pratique du sport, à la pratique de la course à pied. Donc c'est plutôt un modèle, en effet, sportif, qui a des vertus auditives et visuelles. C'est-à-dire qu'il a une caméra embarquée au milieu, qui permet de prendre des photos ou des vidéos, avec grosso modo une heure d'autonomie. Mmh. Et puis, il permet par les haut-parleurs et les micros qui sont dans les branches, il permet de recevoir ou de passer des appels téléphoniques, de recevoir la radio, d'écouter BFM Business si on le souhaite pendant qu'on se balade en vélo. Non, on n'a pas le droit en vélo, mais au moins quand on court. Donc voilà, donc il y a pas mal de services associés à ces produits.
Alors c'est un modèle qui fait penser à un modèle un peu futuriste. C'est moins cher, ça ressemble d'ailleurs au modèle des Oakley de Meta, mais ça reste quand même moins cher largement.
Oui, alors nous on les propose à 299 €. Donc c'est à peu près effectivement la moitié du prix de nos concurrents sur ce créneau-là.
Alors vous mesurez quand même à des géants de la tech, notamment à Meta. Comment est-ce qu'on arrive au même résultat que Meta? Est-ce que vous êtes, je crois pour l'occasion, associé à une start-up spécialisée?
Oui, on s'est associé avec BlickUp, qui sont des gens qu'on connaît bien, qui sont dans l'optique évidemment depuis très longtemps, mais très professionnels sur les aspects technologiques. Nous, on est des opticiens, donc on connaît bien la partie optique, on connaît bien la partie verre, on est fabricant de verre d'ailleurs, nous, hein, chez Crise Group, mais on a souhaité s'associer à des gens qui, en effet, maîtrisent la technologie, la conception de produits qui embarquent des éléments assez costauds, hein, du point de vue technologique, parce que c'est pas notre métier, quoi.
Là, j'ai des verres, ce sont des verres solaires.
Oui.
On peut les adapter aussi à la vue?
Oui, vous pouvez les adapter à la vue. En fait, ce qu'on a imaginé sur ce produit, c'est une petite binocle, vous voyez, sur laquelle vous pouvez monter des verres correcteurs. Et en fait, ça vient tout simplement se clipper sur la monture. Et donc, ça vous permet d'avoir des verres corrigés et de pouvoir faire votre pratique du sport sans avoir de verres correcteurs à côté.
Claire Koralski. Oui, alors on voit effectivement l'optique aussi attaquée par des pure players en e-commerce. Ouais. Là, vous avez un produit, je suppose, avec un positionnement prix qui pourrait justement se prêter à être vendu en e-commerce. C'est aussi un produit pour ce type de distribution ou c'est quand même vraiment le magasin qui va rester central?
Ça peut. Alors nous, on est plutôt un retailer physique. Oui. On a un réseau de 1675 magasins, donc on pense en premier lieu à nos magasins, même si on fait de la vente en ligne. Aujourd'hui, l'optique, c'est quand même un produit qui se vend en magasin. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de service, il y a une correction visuelle la plupart du temps qui réclame un accompagnement par un opticien. Donc, la vente en ligne, elle est très peu développée. Les clients ont encore besoin d'un vrai accompagnement. Je vous donne un exemple sur la Contacto, sur les verres de contact, qui sont les produits qui sont à la limite les plus simples à vendre en ligne. On est aux alentours de 12-13% du marché français qui se pratique en ligne, et ce pourcentage baisse. Il diminue parce que les gens ont vraiment besoin et envie d'avoir ce contact régulier avec leur opticien. Le niveau de service est très bon dans les magasins d'optique et donc il y a une satisfaction qui fait qu'on ne se déporte pas beaucoup sur le online encore.
Alors, vous le disiez, hein, 1675 magasins. Il faut savoir que Chris est une coopérative d'opticiens qui mêle à la fois optique et audition. Oui. Audition, d'ailleurs, je crois que vos résultats sont plutôt positifs. Vous visez 2 milliards d'euros d'ici à l'année prochaine, justement grâce à des innovations comme celle-ci, mais aussi grâce à l'audition qui se développe, qui a une grosse croissance, mais qui reste quand même moindre face à l'optique.
Oui. Alors, pour vous donner quelques chiffres, nous, en effet, on a 60 ans cette année. On est une coopérative qui fête ses 60 ans cette année, 1675 magasins, on fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires, en forte croissance cette année, 4,9%. Le 1,5 milliard, il se décompose en 1,450 milliards en optique et 50 millions en audition. Donc c'est 97% contre 3%. Mais la dynamique, elle est bien plus forte pour l'instant en audition. On a une croissance en 2025 de 32% sur la partie audition. Donc la contribution de l'audition à la croissance du groupe, elle est forte. Elle est d'environ 16% pour l'année 2025. Donc ça monte en puissance. On a encore de très très belles perspectives. On est un réseau jeune en audition. On a quand même 430 magasins en audition. On en avait 30 il y a 10 ans.
Mais alors justement, ces magasins, 430 magasins, oui. Est-ce qu'il y a des Chris à part entière dédiés à l'audition, des Chris optiques et parfois des modèles de magasins qui fusionnent les deux? Vous avez justement lancé un nouveau format sous ce concept-là.
Oui.
Il y en a combien des modèles comme celui-ci?
Alors, notre modèle à nous, c'est plutôt de regrouper l'optique et l'audition sous un même toit. On a une trentaine de magasins d'audition seuls, mais qui d'ailleurs, en général, sont pas très très loin du magasin d'optique principal, dont ils se sont désolidarisés au bout d'un moment parce que le volume d'affaires faisait qu'on avait besoin d'un peu plus d'espace pour l'audition. Le modèle de base, c'est plutôt d'avoir un espace dédié à l'audition dans le même magasin pour offrir à nos clients une prestation d'ensemble sur la santé sensorielle, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, dans une unité de lieu.
Le panier moyen, il est comment sur l'audition versus l'optique?
Il est plus élevé. Sur l'optique, on est aux alentours de 500 € à peu près. Sur l'audition, on est plutôt aux alentours de 1002. Donc évidemment, ce sont des produits qui sont plus chers. Dans les deux cas, vous avez une offre 100% santé. Donc vous pouvez accéder aussi bien à des lunettes qu'à des aides auditives à 0 € de reste à charge. Ça, c'est possible depuis la loi du 100% santé. Mais les produits d'audition sont un peu plus chers.
Alors, on a un renouvellement produit assez long, a priori plus de 2 ans au moins sur les lunettes. Comment on fait pour maintenir une relation avec le client futur prospect, hein, puisque c'est un peu le cas, et qui revienne chez Chris?
Oui, alors c'est vrai que en moyenne, on a le droit à un renouvellement de ses lunettes tous les 2 ans. Les gens n'utilisent pas ce droit à 2 ans et 1 jour. Nous, on voit des clients revenir aux alentours de 3 ans, okay. Un petit peu avant 3 ans. Il n'y a pas d'abus de ce point de vue-là, et tant mieux d'une certaine manière. Par contre, c'est vrai qu'il faut installer une relation continue, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse oublier. C'est pour ça qu'on offre une grande variété de produits. la contactologie, les lentilles de contact, par exemple, font que vous venez plus souvent. Quand vous achetez des lentilles de contact, vous venez plutôt près de 2 fois par an, au lieu d'une fois tous les 3 ans pour les gens qui n'achètent que des lunettes. Et puis, vous pouvez venir aussi chez votre opticien, il ne faut pas l'oublier, pour acheter des lunettes de soleil, pour acheter des lunettes de sport. On ne le sait pas suffisamment, mais vous pouvez mettre à votre vue des petites lunettes pour aller à la piscine, par exemple, des lunettes pour faire du vélo. Vous pouvez acheter des lunettes de pratique sportive maintenant connectées. L'offre, en fait, que vous pouvez retrouver chez un opticien, finalement, elle dépasse assez largement... l'offre classique de lunettes telles que je les porte.
Et il y a une démarche CRM aussi, de base de données, d'activation.
Ouais. Bien sûr, on essaye de garder le contact avec nos clients en étant très respectueux des règles RGPD, hein, évidemment. Mais en effet, on essaye d'entretenir un peu cette relation au long cours. Ouais.
Comment est-ce qu'on arrive à innover quand on est un opticien face à la grande concurrence qu'on a en face de nous? Quels sont les axes, à part bien sûr les lunettes connectées, quelles sont les autres innovations? Est-ce que ça passe par le service en magasin aussi?
Oui, beaucoup. Vous avez raison de le signaler. Il y a l'offre produit qui peut être innovante. Il y a l'offre du magasin en elle-même dans son merchandising, dans la manière de concevoir le magasin. On a un nouveau concept. On aura peut-être l'occasion d'en parler. On est en train de le tester. Ça passe aussi par les services que vous présentez ou l'expérience client que vous offrez à vos clients. Je crois qu'on parlera tout à l'heure avec certains de nos partenaires, iSoft, qui présente un masque de réalité virtuelle qui nous permet à nous de faire la mesure exacte du besoin de correction auditive en magasin. Jusqu'à présent, pour quelqu'un qui fait ses lunettes, on lui mesurait son écart pupillaire entre les deux yeux avec une machine qui ressemble un peu des grosses jumelles, exactement. Ça, exactement. Alors, aujourd'hui, on arrive à le faire avec un masque de réalité virtuelle, qui est très très bien, dont on parlera.
Amélie, ne dévoilez pas tout parce que vous avez déjà 3 questions qui sont passées sur la startup.
J'en dis pas plus.
Non, je voulais parler d'autre chose. On parle aussi, donc il y a effectivement ce casque dont on reparlera, mais il y a aussi des innovations sur la réparation, sur l'artisanat.
Oui. Oui, alors on est en train de tester, par exemple, dans 2 de nos magasins, une fabrication de montures sur place. C'est un concept qu'on appelle Origine.
Via des verres que vous fabriquez?
Oui, absolument. Alors, on est fabricant de verres, nous. Hein. On a une usine dans les Yvelines, à Bazainville, où il y a 500 salariés qui travaillent pour Chris Group. On fabrique donc nos verres. C'est une usine qui est superbe, dans laquelle on a investi plus de 50 millions d'euros ces 10 dernières années. Donc, qui est au top de la technologie sur le plan visuel. Donc, on fournit nos clients avec des verres qui viennent de notre propre usine entrepôt à peu près à 65-70% de nos volumes. Donc ça c'est en effet un des axes très très importants de notre développement depuis un certain nombre d'années.
Très rapidement, Amaury, parce qu'il nous reste peu de temps, mais vous visez 400 ouvertures de magasins d'ici à 2028. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et surtout, quelles sont les zones que vous visez? On a vu récemment une étude de la CCI qui faisait état de la vacance commerciale dans les centres-villes qui dépasse les 10%. Est-ce qu'il y a encore de la place dans les centres-villes?
Oui, il reste de la place. Alors nous, on a un plan qui devait nous permettre d'ouvrir 400 magasins entre 2023 et 2028. Aujourd'hui, on est à 250, on est un petit peu en avance de phase, et donc on pense qu'on finira notre plan avec à peu près 6 mois d'avance. On voit encore des opportunités. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut pas développer n'importe comment, il faut bien identifier les zones. L'ambition qu'on a, c'est d'être à un quart d'heure de tous nos clients. C'est vraiment un commerce de proximité. Les clients ont besoin de venir pas loin de chez eux. Ils aiment pas trop se déplacer. Donc on a besoin. C'est nous qui venons à eux plutôt que le contraire. Et il y a encore des opportunités, y compris en centre-ville. Il y a des centres-villes qui restent actifs, qui restent dynamiques. Et on pense que les opticiens font partie de ces commerces qui ont un vrai rôle social en fait de proximité, un peu comme les boulangers. Ou les cafés.
Merci beaucoup Amaury, restez avec nous puisque vous avez teasé déjà la deuxième partie d'émission. On passe sans plus attendre au focus. Quand on regarde ce marché de l'optique, on a l'impression qu'il évolue beaucoup avec de nouveaux acteurs du digital aussi. Dans les faits, ça reste quand même un marché très traditionnel.
Alors, complètement. Si on regarde effectivement les chiffres, 75% des ventes sont faites via les grands réseaux, en particulier effectivement Chris. 7% sur l'e-commerce et on rejoint effectivement ce que vous venez de dire avec principalement la lentille ou le solaire et pas forcément la vision classique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi, je me suis focussée sur la part de MDD, effectivement, de considérer qu'aujourd'hui, c'est à peu près 30% au global du marché, cette part de MDD. Et souvent, ce n'est pas la première monture. La première monture, elle est plutôt à trois quarts des Français de la marque. Et après, on arrive sur de la MDD sur la deuxième monture.
On voit quand même émerger de nouvelles marques qui contournent un peu ce modèle traditionnel. Qu'est-ce qu'elles viennent chambouler, ces marques-là?
Alors là, je viens de parler de la MDD. Bah, c'est effectivement des réseaux qui vont être 100% propre marque, 100% private label. Si effectivement on regarde un Jimmy Fairly qui a déjà 130 boutiques en France, si on regarde Ace & Tate ou Warby Parker aux États-Unis qui avait lancé ce concept, on a vraiment effectivement, je crée ma marque de lunettes et je crée mon propre réseau pour vendre cette marque où je suis 100% producteur, fabricant et distributeur.
Ou encore on peut citer Lunettes pour tous. Au-delà de ces marques, est-ce qu'on vend toujours de la même façon?
Alors, je trouve intéressant le fait qu'il y ait des nouvelles initiatives qui arrivent. Alors, certainement avec aussi des changements de consommateurs, avec le télétravail, avec une population vieillissante. On voit effectivement un certain nombre d'acteurs se mettre sur, par exemple, la vente à domicile. Donc, venir chez vous, faire effectivement une vérification de la vue, mais arriver aussi avec le choix des lunettes jusque, effectivement, après la livraison de la lunette finie. Donc, les opticiens mobiles ou l'opticien qui bouge, c'est quelque part une autre façon de vendre des lunettes. Après, il y a un commun avec ce qu'on a dit depuis le début, c'est quand même ce contact physique dont on a besoin dans cette vente.
Et qui reste essentiel. Merci beaucoup Claire, on passe sans plus attendre au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et Thomas Didier nous a rejoint sur ce plateau tant attendu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Aesop que vous avez créé en 2018, une start-up bordelaise spécialisée dans la e-santé. Alors vous concevez des solutions à destination des professionnels de santé et des opticiens grâce à la réalité virtuelle. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous.
Alors je vais commencer par le produit opticien puisque j'ai le plaisir de retrouver un partenaire de quelques années. Pour expliquer concrètement le sujet, quand vous rentrez dans le magasin d'optique que vous abordez avec votre ordonnance, le plus souvent de correction prescrite par l'ophtalmo, vous vous retrouvez face à un choix de diverses montures et plein de gammes de verres. Et là, il y a un défi à la fois pour vous, porteur de lunettes, et à la fois pour l'opticien, de faire comprendre les enjeux de l'adaptation en correction optique. Et c'est là où on intervient. Et donc, nous, on a des solutions qui permettent à l'opticien de mesurer et d'analyser la coordination des yeux pour l'inclure directement dans l'adaptation, le choix de la monture et le choix du design du verre correcteur. Donc, comment ça marche concrètement? C'est un casque de réalité virtuelle qu'on met sur la tête du patient, du client en magasin et qui nous permet de mesurer la manière dont vous bougez les yeux, la manière dont vous captez les éléments en périphérie, au centre, la manière dont vos yeux se coordonnent. Et ça nous permet de sortir des paramètres individualisés. Par exemple, on ne lit pas tous de la même manière et certaines personnes vont lire mot par mot, d'autres vont lire plus rapidement et plus groupés. Et tout ça, c'est des données individualisées qui permettent à l'opticien d'adapter un verre spécifique qui permet d'améliorer et d'optimiser le confort et l'adaptation dans les lunettes.
Mais donc, ça veut dire que cette machine va permettre que je puisse avoir un verre qui soit à 100% personnalisé, adapté à mon œil.
Exactement. Et c'est notamment important pour les verres progressifs. Alors, pour info, le verre progressif, c'est la fameuse lunette qui permet d'avoir une vision adaptée en vision de loin, en vision de près, en vision intermédiaire. Donc, on a une paire de lunettes sur le nez en permanence pendant toute la journée. Et par définition, un verre progressif se porte de manière dynamique. Et nous, la nouveauté, c'est qu'on vient prendre les mesures en dynamique, en simulation d'une condition réelle de la vie quotidienne, puisqu'avec la réalité virtuelle, on peut simuler une scène en dynamique de la vie quotidienne, et que ça nous permet d'enregistrer et d'analyser également le mouvement de la tête. Il y a des petits capteurs qu'on appelle un eye tracker dans le casque qui permet de mesurer de manière précise et fiable le mouvement des yeux. Et il y a aussi un capteur gyroscopique qui nous permet de le mettre en relation avec les mouvements de la tête. On analyse tout ça et ça nous permet de vraiment sélectionner le bon équipement pour le confort au quotidien.
Donc vous captez quelque part où mon œil se met si je regarde mon ordinateur, où mon œil se met si je regarde l'écran d'une conférence.
Exactement, la manière dont vous lisez, la manière dont vous percevez, si vous bougez plus les yeux ou plus la tête en fonction de ce qui se passe dans votre entourage. Et tout ça en analysant aussi la capacité de vos yeux à se coordonner. Et ça, ça nous permet de ressortir des algorithmes qui permettent à l'opticien de faire valoir son expertise et aussi de mieux faire comprendre aux porteurs de lunettes quel est l'enjeu d'avoir une adaptation parfaite et une correction optimale.
Alors ce casque, il est utilisé par plus de 1000 professionnels. Comment est-ce que ça se partage entre les opticiens et les ophtalmos, par exemple? Et puis qu'est-ce que ça change surtout? Et là, je m'adresse à notre opticien en plateau, mais qu'est-ce que ça change véritablement pour l'opticien en magasin?
Ah ben nous, ça nous permet d'avoir une expérience pour les clients qui soit réellement différenciante par rapport à ce qu'ils peuvent connaître ailleurs, qui soit unique. Dans les exemples que vous citiez tout à l'heure, moi il y en a un que j'aime bien évoquer, c'est ça permet de faire prendre conscience aux gens de si quand ils regardent quelque chose qui est sur le côté, s'ils tournent les yeux ou s'ils tournent la tête. Si vous tournez les yeux, il faut que la déformation de vos verres sur le côté soit la même que juste devant. Si vous tournez la tête, par contre, le côté de votre verre, c'est quelque chose qui reste toujours périphérique, et donc c'est pas la même déformation. Quand vous expliquez ça à travers ce masque à vos clients, ils comprennent qu'un verre de lunettes, c'est pas quelque chose d'interchangeable, c'est pas une broutille, c'est quelque chose qui est réellement technologiquement extrêmement compliqué à faire, et surtout que c'est un produit de masse individualisé. C'est ça qui est compliqué dans notre métier.
Mais alors ça, c'est une solution qui a un coût supplémentaire pour le consommateur ou c'est complet?
Non, ça fait partie de la prestation, du conseil et de l'accompagnement. Nous, ça nous permet aussi de fabriquer dès la première fois des verres qui soient impeccables. Vous avez parfois des retours clients qui vous disent, écoutez, mes verres, je les ai, je suis pas très confortable, ça m'a donné mal au crâne, c'est pas terrible. Bon, ben avec ce genre de produit, en réalité, vous arrivez à faire du premier coup des verres qui correspondent réellement à votre client.
C'est un casque que les professionnels achètent ou c'est quelque chose que vous louez?
C'est quelque chose qui est loué parce que le casque, c'est une chose, mais nous, l'expertise, c'est plutôt l'analyse et le logiciel qui est embarqué. Il faut savoir que nos algorithmes sont brevetés. On n'a pas parlé de la solution, c'est un peu moins le sujet, mais moi, je viens du métier. Je suis orthoptiste et j'ai exercé pendant 12 ans en cabinet. Et le deuxième produit, qui est un dispositif médical, est utilisé en cabinet par les orthoptistes. L'orthoptiste, c'est l'expert de la dynamique oculaire. C'est celui qui est capable de savoir si vous avez un problème de coordination justement au niveau des yeux. Et on a plus de 500 en cabinet qui utilisent le casque pour faire de l'évaluation et de la rééducation. Et l'adaptation au monde de l'optique est géniale puisque, en fait, fort de cette analyse et de ces mesures-là, on arrive à intégrer directement le comportement visuel du porteur de lunettes dans la monture et l'équipement qu'on va lui fournir. Et ça, c'est un game changer parce que ça permet clairement au porteur de lunettes de comprendre les enjeux de choisir telle géométrie, telle monture ou telle gamme de verres correcteur.
La question de la KPI, parce que du coup, quelque part, c'est le modèle économique aussi. Je suppose que vous avez mesuré combien de lunettes tombent juste du premier coup grâce au casque, ou c'est ce type de KPI que vous allez chercher? Alors, pour la partie opticien, du coup, forcément.
Je vais peut-être laisser la parole aussi à Amaury, mais de notre côté, l'élément différenciant, c'est d'abord l'expérience client, parce que quand on modélise cette expérience en VR, en réalité virtuelle, on rend l'expérience ludique. Et rien que ça, le futur porteur de lunettes qui rentre dans le magasin, déjà, il a un apport de confiance par la relation avec son opticien. Et ça, c'était le premier enjeu. Et ensuite, peut-être que on sait qu'on a une montée en gamme qui se fait. On sait que ça permet de confirmer des ventes. Pour le moment, on n'a pas un retour chiffré de ces statistiques-là et de ces progrès. Mais je suppose qu'elles viendront rapidement.
Merci beaucoup Thomas. On passe sans plus attendre à l'actu de la semaine. Alors Claire, on parle beaucoup des tickets restaurants en ce moment avec l'idée d'élargir leur usage. Justement, est-ce qu'on est en train de changer complètement leur rôle ?
Alors complètement, il y a vraiment une révolution qui est en train de s'entériner, puisque les tickets restaurants, effectivement, on pouvait déjà les utiliser les jours de semaine dans la grande distribution. On sait que Serge Papin est en train de pérenniser vraiment cette approche. Il s'interroge aussi de l'opportunité de l'ouvrir aux jours fériés et aux dimanches, et puis peut-être aussi d'étendre les possibilités aux supermarchés et à l'hypermarché. Alors, on a quelques chiffres assez intéressants. Aujourd'hui, 44% des tickets restaurants sont dépensés en grande distribution et contre 31 en restauration. Donc on voit qu'effectivement la vocation première de ce ticket, elle est en train de changer. Alors c'est un choc, puisque aujourd'hui on pourrait estimer à 900 millions d'euros par an qui passent effectivement des restaurants au supermarché avec ce transfert des tickets restaurants.
Ce basculement, est-ce qu'il vient d'une contrainte économique ou alors d'un changement de comportement de la part des consommateurs ?
Alors, des deux, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la première chose que les salariés vont remonter, 87% des salariés disent qu'ils améliorent leur pouvoir d'achat grâce au ticket restaurant, 78% qu'ils servent directement à financer leurs courses. Alors, qui de la poule ou l'œuf ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu le télétravail, on s'est mis à consommer différemment lors de la semaine du travail. Donc, les tickets restaurants ont été assez rapidement utilisés pour, effectivement, ces jours de télétravail. Et puis après, on a gardé l'habitude. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a un usage où on sort moins et on se fait peut-être plaisir à travers les tickets restaurants en grande distribution.
Oui, comme un chèque, finalement, du pouvoir d'achat. Bon, tout ça, ça veut dire qu'il y a des perdants et des gagnants.
Alors, complètement. Alors, ce qui est sûr, c'est qui est le gagnant, qui est le perdant. Aujourd'hui, le consommateur, on pourrait juger qu'il est lui gagnant. Puisque effectivement, on l'aide et on l'aide dans son pouvoir d'achat. Les restaurateurs ont aussi en train de se réinventer sur des offres un peu différentes, sur des livraisons, beaucoup de livraisons aussi dans les bureaux. Donc, je pense que c'est pas une question de gagnant-perdant, c'est une question d'évolution d'un comportement. Et si, encore une fois, le grand gagnant, c'est heureusement le consommateur dans cette histoire-là.
Merci beaucoup Claire pour votre expertise. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette émission.
Merci.
Merci à vous également de nous avoir suivis depuis chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Et puis je vous souhaite un excellent week-end à vous également. Et puis on se retrouve lundi dans la matinale de BFM Business. Bon week-end.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.